La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, 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 mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir.
Ô spleen, ô désespoir, ô jeunesse ennemie, n'ai-je donc si peu vécu que pour cette déconfie, et ne suis-je noirci dans les travaux greffiers que pour voir en un jour pourrir tellement d'idées? Ma plume, qu'avec respect tout transistor admire, ma souris au montage pour votre bon plaisir, à coups de nuit plus courtes et d'ongles en sang rongé, trahis donc mon devoir et me laisse dériver? Ô cruel souvenir d'inspiration passée, œuvre de tant d'heures en un soir effacé. Oui, bon, ça va, ranger les mouchoirs, c'est que de la mauvaise poésie.
Bienvenue au pays des ombres, voyageur égaré. C'est la voix éthérée de Caroline qui t'accueille pour un les yeux ont des oreilles, en couleur froide. Direction la déprime, Valium à volonté.
Ah non, pardon, Transistor n'approuve pas ce message. Oui, je sais, il est bien loin le temps de notre triomphe en direct à Ulm sur littérature et guerre. Ce n'est pas faute d'envie, mais vous imaginez une fin d'année universitaire? Vous avez réussi à mener à bien tous vos projets, vous? Finir de lire Proust, apporter la paix dans le monde, trier vos chaussettes, nettoyer sous le frigo? Hein? Non? Bah, chut alors. Bon, je vous dirais bien que vous m'avez manqué, mais la solitude, c'est tellement émo. Mes compagnons d'infortune, vous les connaissez bien. On est seuls ensemble, comme tous les êtres humains. Willem et Camille et Figaro, le crâne en papier mâché rempli de M&M's, qui est pour une fois doublement adapté au thème mort et chocolat. Sinon, il y a Robin aussi. Précédé de la tristitude d'Oldelaf, Willem vous accueillit en incipit avec un grand déprimé, Baudelaire et sa quatrième rate. Rate. Spleen. En ce moment, la météo est un peu variable, ça dépend des jours, et entre les résultats d'agreg et les rédactions de mémoire, la Bibli ressemble moins à un spray dans un cimetière qu'à une cage géante dans laquelle des hamsters nourris aux amphétamines font tourner les roues de la force de leur petite papate trop courte. Sinon, moi, ça va, merci. Mon psy est heureux parce que j'ai arrêté de le mordre. Bon, trêve de conneries, si une telle chose m'est possible, et mettons les choses au clair. La dépression, c'est une maladie sérieuse et compliquée. Il y a des gens seuls dans le monde, des vies de merde, des soirs, on a toutes les raisons de pleurer. Mais il y a aussi le blues, les angoisses métaphysiques, les soleils sombres qui ont inspiré poètes, romanciers et autres écrivaillons depuis la nuit noire des temps. Ces rêveries romantiques sur les lacs et les souffrances des petits emmerdeurs, je veux dire des souffrances du jeune Werther, on peut les lire, les analyser et en rire un peu ou beaucoup.
Mais moi j'ai confiance en toi Bernard, ça fait 20 ans que je suis coach en suicide et j'ai jamais eu un élément comme toi. Allez Bernard, France Télécom t'aime, France Télécom compte sur toi, moi je t'aime, moi je compte sur toi. On savait Bernard que tu pouvais te retrouver au bord d'une fenêtre et hésiter, on avait travaillé sur cette situation. Et qu'est-ce qu'on avait dit Bernard, que tu sautes ou que tu reviens avec moi? On avait travaillé sur quoi Bernard, que tu sautes ou que tu reviennes avec moi? Que tu sautes, Bernard! Alors tu vas sauter! Allez, tout le monde au courage! Allez, Bernard! Allez, Bernard! Allez, Bernard! Ouais! Wouh! Venez, les autres, regardez son saut de l'ange, parfait! Regardez, la cambrure du dos, le relevé du manteau, c'est impeccable, c'est parfait! Voilà. Mais un mois et demi de travail en piscine, hein, voilà, prenez exemple, voilà! Oh putain, il s'est pris le lampadaire! Oh, oh merde! Oh non, alors là, franchement, c'est du gâchis parce qu'un mec, il s'est aussi, autant entraîné que ça. Heureusement qu'il est mort, il aurait été déçu.
Et c'était Jérémy Ferrari dans On ne demande qu'à en rire. N'ayez crainte, personne ici ne sait faire de l'humour noir dans ses proportions. Vous n'aurez droit qu'à mes pitreries habituelles, assaisonnées pour l'occasion d'un soupçon de bad. Et pour tenir suffisamment à distance les nuages, je propose de partager une méthode rapide pour donner du cœur au ventre que votre courte expérience Thérèse vous a appris. Il y a les classiques. Un cas à chocolat, un câlin, quelqu'un qui ramasse votre portefeuille, la tartine qui ne tombe pas du côté du beurre. Moi, je propose de respirer du muguet. Du coup, ça marche qu'en mai, donc c'est pas très... Bon, mais c'est vraiment très efficace.
Oui, donc c'est pas du poison, le muguet. Ma méthode anti-déprime, c'est la marche à pied. Change les idées. Quand tu marches, tu laisses les idées là où tu les as laissées. je sais pas, elle meurt pendant ta marche et tu reviens et t'es trop de bonne humeur et tu peux faire plein de choses dans ta vie.
D'accord, je m'attendais pas à une réponse aussi, je sais pas, politiquement correcte.
Un plaisir. Sinon, il y a aussi la drogue, mais bon, c'est moins bon pour la santé.
Blablabla. Je n'ai rien entendu. Will ?
Alors, pendant longtemps, ma méthode antidéprime, c'était des meurtres mentaux, uniquement.
Politiquement correct.
Oui, disons qu'on n'a pas encore retrouvé les corps, donc pour le moment, je suis innocent. Et maintenant, je suis passé à une technique plus douce, c'est-à-dire que j'écoute de la musique joyeuse, à fond, ça marche bien.
Robin ?
Au risque d'être moi-même très politiquement correct, moi je fais beaucoup de vélo, et le vélo ça rend heureux. Mais dans l'ensemble, je suis pas très déprimé, alors du coup j'ai pas beaucoup de techniques d'antidéprime.
Pour commencer dans les sourires et dans la bonne humeur, pourquoi pas une fin ? Fin de pièce, fin de vie,
fin de l'espoir, alors qu'on attend encore et toujours une mort ou un dieu qui est en retard, et qu'on ne sait plus trop quoi faire, ni vraiment quoi comprendre, car soyons clairs, c'est du Beckett, et parfois on aimerait bien des sous-titres. En attendant Godot, Vladimir et Estragon, alias Camille et Will, tentent de se pendre avec une ceinture. Tout va bien. Traduction de et par Samuel, blablabla, veuillez insérer le commentaire sur son psychorigidisme linguistique de l'épisode 9.
Et si on se pendait ?
Avec quoi ?
Tu n'as pas un bout de corde ?
Non.
Alors on peut pas.
Allons-nous-en.
Attends, il y a ma ceinture ?
C'est trop court.
Tu tireras sur mes jambes ?
Et qui tirera sur les miennes ?
C'est vrai.
Fais voir quand même.
Estragon dénoue la corde qui maintient son pantalon. Celui-ci, beaucoup trop large, lui tombe autour des chevilles. Il regarde la corde.
À la rigueur, ça pourrait aller. Mais est-elle solide ?
On va voir. Tiens.
Ils prennent chacun un bout de corde et tirent. La corde se casse. Il manque de tomber.
Elle ne vaut rien.
Silence.
Tu dis qu'il faut revenir demain ?
Oui.
Alors on apportera une bonne corde.
C'est ça.
Silence.
Dis.
Oui ?
Je ne peux plus continuer comme ça.
On dit ça.
Si on se quittait, ça irait peut-être mieux.
On se pendra demain.
Un temps.
À moins que Godot ne vienne.
Et s'il vient ?
Nous serons sauvés.
Vladimir enlève son chapeau, celui de Lucky, regarde dedans, y passe la main, le secoue, le remet.
Alors, on y va ?
Relève ton pantalon.
Comment ?
Relève ton pantalon.
Que j'enlève mon pantalon ?
Relève ton pantalon.
C'est vrai.
Il relève son pantalon. Silence.
Alors, on y va ?
Allons-y.
Il ne bouge pas. Rideau.
Pour ne pas vivre seul, on fait les cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends pour avoir l'illusion de ne pas.
Merci Camille, merci Will. Et oui, pour en remettre une couche sur la condition humaine désolée, c'était Dalida avec Pour ne pas vivre seul. Si à un moment ça plonge trop pour vous, n'hésitez pas à aller vous abreuver de lolcat sur internet. Les chats sont les suppôts de Satan et après avoir aspiré votre âme, ils dévoreront sans culpabilité aucune votre enveloppe charnelle encore tiède. Quelqu'un veut un M&M's peut-être ? Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Alors, je tiens entre mes mains un exemplaire des prophéties de Nostradamus.
Oui.
Alors, je sais pas, choisissez une année, puis on verra si c'est suffisamment déprimant comme prophétie.
Moi, je dis, il faut prendre une année qu'on a déjà vécue pour savoir si ça marchait ou pas.
1999.
Oh, c'est déprimant comme année, ça.
Est-ce qu'il avait prévu la comédie musicale Notre-Dame de Paris ?
Je sais pas. C'est en vieux français. L'an 1999, 7 mois. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressuscité le grand roi d'Angoulême. Avant, après, Mars régnait par bonheur.
L'avantage, c'est que vu qu'on comprend pas, c'est probablement vrai. Ça peut être n'importe quoi.
Oui.
C'est parle le commentaire parle d'un souverain mongolien. Alors, est-ce que Genghis Khan se réincarne ? Ok. Le boom chinois. Une épidémie de grippe. Semblable à 1918. qui a tué 100 millions de gens dans le monde. Sympa. Ou alors la révolution contre le régime communiste. Oui, youpi.
D'accord, pourquoi pas.
Alors, sinon dans la série choses bizarres qui m'arrivent, sachez qu'en ce moment, je ne vous donnerai pas mon adresse du coup, mais en ce moment, la porte de mon immeuble est cassée. Donc on pense qu'il y a eu une espèce de diffraction, quelque chose comme ça. Donc un matin, je descends, je vais à la bibliothèque, je vois que ma boîte aux lettres a été arrachée de ses gonds. Quand même, mauvaise journée, tout ça. Je rentre le soir, ma boîte aux lettres avait été remise en place, et à l'intérieur, je trouve un petit papier. Efficace, sérieux, puissant. Monsieur Salim. Avec Monsieur Salim, tous les problèmes de cœur sont résolus sous 4 jours. Grand voyant, don héréditaire de père en fils, spécialiste, grand marabout, seul qui est capable de faire des miracles. A des résultats à 100% dans la même semaine grâce à ses produits africains. Tous travaux occultes, le centre le plus important de la médium africaine. Contre les ennemis, examen, travail, amour entre hommes et femmes, fidélité absolue entre époux, défaillance sexuelle, difficulté de famille, sport. Monsieur Salim voit tous les problèmes passés et présents. Donc voilà, du coup j'ai eu un grand moment de mais est-ce qu'il a réparé ma boîte aux lettres en déposant le papier, qu'est-ce qui s'est passé, c'est voilà, par vraiment la pensée. un peu étrange quoi, donc qui m'a illuminé ma journée. Bon, en fait c'est mon proprio qui avait remis la boîte aux lettres en place.
Et le prospectus aussi, parce que ton proprio...
Mon proprio est Monsieur Salim, oui. Ça explique tellement de choses.
Mais on aurait dû aller le voir quand on avait nos problèmes de karma avec ta transistor. Il serait venu, il aurait réglé nos problèmes. Et bon, et on a Robin du coup, mais c'est moins occulte.
Est-ce que tu as des objets africains pour régler les problèmes de karma?
j'ai des trucs nordistes, je sais pas si...
Ça compense. Non.
Est-ce que ça marche?
Non, mais par contre, moi je suis pas le marabout pour tous, parce que Monsieur Salim, il fait que amour entre hommes et femmes.
Oui, c'est vrai.
Mais moi je suis œcuménique sur cette question.
Voilà, et la dernière, c'est une toute petite. Donc vous savez que j'aime bien lire ce qu'il y a dans les toilettes. Puisque voilà. Donc c'est, je crois, l'avant-dernière cabine dans les toilettes de la BU, en arrivant par la porte, tout ça. Où il y a quelqu'un qui a marqué une très belle phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
Aux toilettes, donc. C'est sympa.
Bah oui, j'ai découvert récemment que je pouvais décliner Doctor Who selon les thèmes, donc c'était un extrait de la musique de Doomsday, l'épisode final de la saison 2. Pas de spoilers, mais je conseille de le regarder avec beaucoup de mouchoirs et beaucoup de chocolat. Spoilers en revanche, Stieg Dagerman, l'auteur suédois que vous allez entendre, s'est suicidé en 1954. 2 ans seulement après l'apparition de son essai, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Vie et mort et suicide. Camille, nous te laissons faire ce dans quoi tu excelles, donner vie au texte sinistre. Traducteur Philippe Bouquet, le nom qui colle pas du tout avec le texte original quoi.
Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je sais bien une chose. Le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir, dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide. Mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort. Alors, tranche, le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et la sèse, même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation ne prenant pas en compte ma liberté est trompeuse,
qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation me crie « Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours ». Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit.
Merci Camille. Oui, j'ai mis un générique d'animé japonais après le texte suédois. C'est langue étrangère, c'est toutes les mêmes de toute façon. Le titre, c'est Sansoku na Tenshi no Teze, une thèse d'ange cruel. Pour la petite histoire, Neon Genesis Evangelion commence comme un méca classique. Oh, des robots géants pilotés par des adolescents qui sont les seuls à pouvoir sauver la planète d'une apocalypse causée par des aliens immondes appelés des anges. Que c'est-il pas, mignon ? Et puis ça part complètement en vrille. D'abord en bien, l'histoire et la psychologie sont complexes et subtiles. Et puis dans le glauque et l'incompréhension la plus complète sur tous les deux derniers épisodes. Hideaki Anno était en dépression quand il a réalisé la série, et croyez-moi, cela se voit. Ça a peut-être boosté la qualité de l'animé, mais inversement, lui allait pas tellement mieux après, donc voilà. En parlant de souffrir pour son art, la légende dit qu'Oscar Wilde, enfermé dans la prison de Reading, n'avait le droit d'écrire qu'une page par jour. C'est dans ces conditions qu'il rédige une longue lettre à son amant, Lord Alfred Douglas, intitulée De Profundis. Et oui, bien sûr que c'est Willem qui vous le lit. Who else? Traduction du grand Pascal Alquin.
J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool.
La prison fait d'un homme un paria. Mes semblables et moi-même avons à peine droit au soleil et à l'air. Notre présence gâte le plaisir d'autrui. Nous sommes indésirables quand nous réapparaissons. Revoir les lueurs incertaines de la lune n'est point notre lot. Nos enfants même nous sont enlevés. Ces liens délicieux avec l'humanité sont brisés. On nous refuse la seule et unique chose qui pourrait nous guérir et nous aider, qui pourrait mettre un baume sur notre cœur meurtri et apporter la paix à notre âme torturée. Et à tout cela, s'est ajoutée une réalité aussi cruelle que médiocre. Tes actes et ton silence, ce que tu as fait et ce que tu as omis de faire, ont rendu chaque jour de ma longue détention encore plus pénible à vivre. Par ton comportement, tu as transformé jusqu'au pain et à l'eau de l'ordinaire de la prison. Tu m'as rendu le premier amer et la seconde saumâtre. Le chagrin que tu aurais dû partager, tu l'as redoublé. La douleur que tu aurais dû chercher à atténuer, tu l'as avivée jusqu'à la torture. Je ne doute pas que ce n'était pas là ton intention. Je sais que ce n'était pas là ton intention. Cela est simplement imputable à ton effroyable absence d'imagination, le seul travers véritablement funeste de ta personnalité.
Je veux rester malheureux, je veux pas qu'on me fasse plaisir.
Merci Will. On accueille les Fatal Picards de retour dans la playlist avec Cure toujours sur les problèmes existentiels d'un ado gothique. C'est toi qui trouvais que ça allait bien avec Wilde, que tu trouves parfois un peu géniard, c'est bien ça ?
Un peu grandiloquent dans sa déprime.
D'accord. Et que dirait ta directrice de mémoire d'un tel commentaire ?
Je pense qu'elle ne dirait rien, mais qu'elle se permettrait de prendre une encyclopédie et de retirer ma tête avec.
Bref, comme le savent peut-être ceux qui écoutent en spectateur, je ne suis pas toujours seule dans ma tête. C'est donc avec grand plaisir que je prête ma voix à Gérard de Nerval, un des deux seuls auteurs de la langue française qu'on peut appeler par leur prénom, dixé par prof de français de première. Dans El Desdichado, probablement son poème le plus connu, extrait du recueil Les Chimères, on trouve en effet des allusions à ses deux crises de folie qui précipitent sa dégringolade mentale. Sous un portrait autobiographique, il aurait inscrit « Je suis l'autre ». Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux. Spoiler, se retrouver pendu en 1855, très probablement un suicide. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treuil ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron ? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Le chœur initial, O Fortuna, extrait du cantate Carmina Burana, composé par Karl Hoff dans les années 30, de quoi vous donner des frissons jusque dans les doigts de pied. Non seulement les paroles sont super joyeuses, trouvez-vous un latiniste ou allez sur Google, mais les nazis l'avaient apparemment classé comme une célébration de la race aryenne. Bref, tout plein de souvenirs quoi. Mais quand même sacrément classe. Si vous êtes curieux, un site répertorie 368 réécritures différentes du sonnet de Nerval par les membres de l'Oulipo. Je vous en lis une. El Destonado. Je suis le tensoriel, le vieux, l'inconsommé, le printemps d'Arabie à la tourbe abonnie. Ma simple étole est molle et mon lynx consterné pose le soleil noué de la mélanémie. Dans l'obi du tombeur, toi qui m'as consommé, rends-moi le pays pousse et la miss d'Olympie, la foi qui poignait tant à mon coin des ossées et la trempe où la pente à la rosse s'appuie. Suis-je en père ou Fédon, Luxembourg ou Biton? Mon fruit est roux encore du balai de la peine, j'ai riblé dans la grue où nappe la trentaine et j'ai trois fois véré, travesti la lagnon. Moissonnant tour à tour sur la mâche du gré, les sourcils de la salle et les crics de la fouille. C'était X plus 1 fonctionnel 1 de Raymond Queneau. Explication, chaque adjectif, substantif et verbe est remplacé par le suivant dans le nouveau Petit Larousse illustré édition 1952, à condition qu'il remplisse les mêmes fonctions syntaxiques et prosodiques. A plus 1, S plus 1, V plus 1 fonctionnel 1. Les rimes ont été de plus conservées et les verbes auxiliaires ou quasi-auxiliaires, être, avoir, aller, n'ont pas été modifiés. C'était histoire de briser un peu la distance aux enfers, puisque la discussion nous tend les bras et que nous suivons aujourd'hui l'étendard d'un humoriste. Vivons heureux en attendant la mort, texte de Pierre Desproges. Humour noir donc, de quoi rire jaune si on a vraiment le blues, à moins que Camille ne réussisse à nous faire voir la vie en rose. Cette phrase était sponsorisée par Mur, la lessive qui te réserve la fraîcheur et l'éclat des couleurs de votre linge. Efficace même en eau froide, faites un geste pour la planète. Sinon on va tous mûrir.
Adieu l'âge vert, je suis dans l'âge mûr. L'âge mûr, par définition, c'est la période de la vie qui précède l'âge pourri. Récemment, les occasions de constater mon entrée irréversible dans l'âge mûr m'ont méchamment sauté à la gueule. Je supporte de plus en plus difficilement les cuites aux ponches des îles lointaines et le rock'n'roll des caves profondes. Je suis de plus en plus fermement convaincue que les gens de 20 ans, que je tenais pour de vieux cons quand j'en avais 15, sont tous de jeunes imbéciles. Je suis allée voir le docteur Brouchard, en qui j'ai pleinement confiance. Il m'a vu naître, je l'ai vu naître, nous nous sommes vus naître. Après m'avoir ausculté de fond en comble avec minutie, il a dit... Pierre, mon vieux, mon pauvre vieux, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules, et écoutez, soyez clair, j'ai un cancer ? C'est-à-dire que non, je ne dis pas cela. Vous dites irréversible, c'est mortel, c'est donc bien un cancer. Parlez-moi franchement, il me reste combien de temps ? À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour 30 à 40 ans, maximum. Mais si ce n'est pas un cancer, comment s'appelle cette maladie ? C'est la vie. La vie ? Vous voulez dire que je suis vivant, oui. Hélas. Mais où est-ce que j'ai pu attraper une pareille saloperie ? C'est malheureusement héréditaire. Avant l'issue finale, qui devrait se situer vers la fin de ce siècle, si tout va bien, vos troubles physiques et mentaux iront s'aggravant de façon inéluctable. En ce qui concerne les premiers, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez vous racornir, vous rétrécir, vous coincer, vous durcir, vous flétrir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux, vos yeux, vos oreilles, votre voix, vos muscles, votre prostate, vos lunettes, etc. Moralement, de très nombreuses personnes parviennent cependant à supporter assez bien la vie en s'agitant pour oublier. C'est ainsi que certains sont champions de course à pied, présidents de la République, alcooliques ou cœur de l'armée rouge. Autant d'occupations qui ne débouchent évidemment sur rien d'autre que la mort, mais qui peuvent apporter chez le malade une euphorie passagère ou même permanente, chez les imbéciles notamment. Et vous n'avez pas d'autres médications à me suggérer ? Il y a bien la religion, c'est une défense naturelle qui permet à ceux qui la possèdent de supporter relativement bien la vie en s'auto-suggérant qu'elle a un sens et qu'ils sont immortels. Soyons sérieux. Alors je ne vois plus qu'un remède pour guérir de la vie, c'est le suicide. Ça fait mal. Non mais c'est mortel. Voilà, c'est 200 francs. 200 francs ? C'est cher ! C'est la vie. Bien, donc sur cette note d'humour noir, peut-être on peut essayer de lancer un peu la discussion sur un truc qui serait un peu moins déprimant que le thème d'aujourd'hui, malgré l'intitulé. Comment on fait pour faire un texte aussi drôle en parlant de quelque chose d'aussi peu drôle ? Et comment on fait tout simplement pour écrire en parlant, c'est un peu facile, tu vois, le cliché du poète qui écrit avec sa bile noire. Et, enfin, on a beaucoup parlé de le spleen, c'est ça, c'est l'inspiration qui naît des humeurs noires et tout. Comment ça marche en fait, et est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est réellement intéressant dans les textes qu'on a lus ?
Baudelaire, c'est un peu le tournant, je pense, c'est un peu la fin de tout ce courant, on va dire, un peu j'écris parce que je pleure, etc. Bah, après, il y a des résurrections, genre le courant émo, si on peut appeler ça de l'art. Mais après, je pense que par exemple, la Forgue, en fait, ses complaintes sont extrêmement pessimistes. Mais en même temps, c'est juste un grand jeu de langage. Genre, il joue avec les mots, puis il fait des phrases allemandes qu'il écrit avec des mots en français. Voilà. Donc je pense que, justement, au bout d'un moment, en fait, l'humour, ça permet aussi de lutter peut-être un peu contre cette espèce de... Suscitons-nous ensemble.
Je vais réduire mon champ à un truc qui est peut-être plus... plus psychologique, mais...
Donc ma réponse ne sert à rien.
Non, tu as tellement répondu à la question, je suis obligée de rebondir là-dessus. Est-ce que ça marche, en fait, de... Genre, j'écris pour aller mieux, genre Oscar Wilde qui écrit...
Oscar Wilde, en fait, c'est assez marrant, parce qu'en gros, il passe une bonne centaine de pages à dire « Putain, Douglas, t'es trop nul, à cause de toi, je suis en prison. » Et à la fin, il lui fait « Oui, mais en fait, je t'aime toujours. » Donc, dans un sens, ça marche. Après, voilà. Disons qu'il va mieux, mais uniquement pour aller moins bien après, donc...
Pour Nerval, je sais que son médecin ne voulait pas qu'il écrive ses derniers recueils de poésie, les chimères, tout ça, parce qu'il pensait que ça allait en gros complètement détruire sa santé mentale. Mais c'est vrai qu'on s'imagine le poète en train de déverser sa douleur sur la page, mais quand tu regardes des poèmes comme Nerval, comme Baudelaire, c'est pas comme s'il l'avait écrit d'une traite en exprimant sa douleur. Enfin, c'est travaillé au niveau du rythme, des images. Enfin...
Donc la douleur, c'est un point de départ. Après, c'est justement comment exprimer ça dans les mots et... On peut finalement écrire quelque chose de très déprimant en étant très joyeux, je pense. Il faut juste trouver l'expression parfaite, etc.
Et on peut apparemment écrire quelque chose de très drôle en étant pas joyeux du tout, parce qu'on a Beckett, une forme d'humour absurde, on a eu donc des proches. C'est un peu le concept de la catharsis aussi, c'est on rit de ce qui nous fait peur, on rit de la mort, on rit du suicide, on rit du cancer. Mais est-ce que ça... Est-ce que point c'est aussi drôle, en fait, ça qui est perturbant, c'est qu'on arrive à... On rit rarement autant que quand on lit un passage aussi déprimant, non?
Je sais pas, je pense qu'il y a déprimant et il y a provoquant. Mais des proches, c'est plus apparemment une espèce de rire un peu choqué parce que c'est pas quelque chose sur lequel c'est correct de faire des blagues. Mais en même temps, le fait qu'il ose le dire, c'est comme si le rire il sortait tout seul.
Pour l'anecdote, des proches dans un spectacle a lu une lettre d'une femme qui avait un cancer et qui lui disait merci, continuez, c'était super drôle. Et... Donc on peut quand même rire, ça dépend aussi du sentiment personnel, mais sinon c'est des proches qui disaient qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Donc,
ouais. Et puis après c'est vrai que je pense que c'est aussi plus universel comme humour, donc ça fait peut-être plus rire parce que ça rapporte des choses un peu primaires en sorte, quoi. Enfin, la vie, la mort. Je pense qu'on peut faire un arc avec l'émission qu'on avait fait sur l'horreur parce que c'est un peu ça aussi, c'est le fait qu'on est en sécurité malgré tout. C'est vrai qu'un texte, même s'il est très déprimant ou très déprimé, bah mine de rien, comme la mise en scène, finalement, nous, on est quand même dans le rôle du spectateur, on est en train de lire dans un canapé, un bureau, on attend le métro ou je ne sais quoi. Donc finalement, on est quand même un peu détaché du texte ou de la représentation. Donc il y a toujours quand même une sorte de protection, mine de rien.
C'est pour ça que je classerais peut-être à part le texte d'Hagerman, parce que justement, c'est plus un écrit testimonial que vraiment une même signalitaire. Dur, c'est un texte qu'on a retrouvé dans son, qu'il a pas publié, qu'on a retrouvé dans son bureau après son suicide. Et quand toi t'as dit qu'il y avait un spoiler, mais quand on sait que c'était la dernière chose qu'il a écrite avant de se suicider, on sent vraiment qu'on a affaire à quelque chose qui est du domaine de la littérature, mais aussi un peu au-delà. Puisqu'on a vraiment une personne qui écrivait pour lui-même et qui a essayé de s'en sortir. Et le texte finit sur une espèce de note d'espoir dont on sait qu'elle a échoué, puisque 2 ans plus tard, il a mis fin à ses jours. Donc finalement, c'est assez intéressant de voir que là, c'est, l'art est mis en échec pour moi. Enfin, on produit quelque chose de beau, mais dans un but qui n'était pas celui de produire un texte littéraire, vraiment.
Wilde, il voulait publier sa lettre.
Alors, c'est très compliqué. Officiellement, il ne voulait pas que ce soit publié de son vivant, mais il a fait faire 2 copies de son texte à sa sortie de prison, et je pense... c'est très clair qu'il savait que ça allait publier, parce qu'il savait qu'il était connu, etc. Mais il ne voulait pas que ce soit publié avant sa mort, en tout cas.
Ce que je pensais avec Nerval, c'est que c'est très incompréhensible en fait comme poème. Enfin, c'est très très beau, il y a plein d'images, tout ça, mais il y a beaucoup de trucs qui sont un peu vraiment des allusions, comme s'il avait utilisé, sa douleur, ses problèmes dans la tête, quoi, mais qu'il avait tout caché dans des symboles. Il y a plein d'allusions aux cartes de tarot, les recherches de. Probablement une allusion à une femme qu'il aimait, qui est morte, mais c'est pas très clair, personne ne sait trop. Donc il y a à la fois genre, des textes intimes qui viennent à la lumière du jour, alors qu'ils ne devaient peut-être pas obligatoirement être publiés, et qui sont de grands écrivains, et qui sont écrits vraiment comme des journaux intimes, comme des lettres. Et il y en a d'autres qui sont des textes officiels, mais qui du coup sont... où la douleur est carrément quasiment illisible, tellement ils l'ont enrubanné, coupé, découpé. Donc c'est...
Mais ça fait de l'art aussi, ne pas tout saisir, etc. Théorie, le texte ouvert, blablabla. Et nous espérons, lecteur, ne pas t'avoir fait trop déprimer par nos lectures. Et sinon, comme te l'a proposé Caroline tout à l'heure, tu n'hésites pas à plonger ton nez dans un bol de chocolat.
Extrait de la BO composée par le groupe français Air pour le film Virgin Suicides de Sofia Coppola, titre numéro 3, Bathroom Girl. Oui, une allusion à la première tentative de la plus jeune sœur, Cecilia. Oh douleur, oh désespoir, voit déjà la fin de l'émission arriver. Qui sait quand nous nous reverrons, ô compagnons d'infortune, quand nos chemins torturés déboucheront à la lumière du jour ? Bah moi je le sais vu que je fais le montage. On essaie de vous cuisiner le prochain opus pour dans 2 semaines sur un thème qui ne devrait pas faire verser une seule larme, les pieds. Sauf pour les unijambistes. Et les tétraplégiques. Et les gens qui ont des ampoules au talon parce que ça fait super mal. Thème d'aujourd'hui proposé par Camille, maquette et playlist composée par Will et moi-même, avec l'aimable participation de Thomas qui nous a proposé les Fatal Picard et Dalida. En mini-virgule, vous aviez les Happy Tree Friends et Romain Lacombe. Merci à Robin d'être de retour derrière sa table de mixage. Et nous avons un t-shirt du jour, sans parole malheureusement, mais tout à fait magnifique. Donc un orange pétant. Et dessus, donc, une tête de mort qu'on suit avec des tout petits cubes de couleurs. Genre, si vous zoomez sur une image sur l'ordinateur, donc pixel, voilà. Donc, la mort dans l'internet, orange mécanique, mortel. Alors, si ce tableau radiophonique en bleu et noir n'était pas de votre goût, je vous rappelle que notre émission en live sur littérature et guerre était, elle, assez joyeuse, en tout cas pour la playlist, et toujours disponible à la réécoute sur le site de la journée de la radio. Ainsi, décidément, non, vous en avez marre de nos délires. Laissez-nous notre triste sort et allez fourrer les nœuds dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Vous vous demandiez si c'était fait exprès de faire la déprime pour l'épisode 13. Ah mais pas du tout, j'ai pas du tout fait exprès. En plus vous vous en foutez, mais on enregistre un vendredi. Non, je ne suis pas suicidaire. Et pour ne pas vous en convaincre, voici la fin romanesque la plus déprimante de ma carrière de lectrice, L'Assommoir d'Émile Zola. Gervaise, son héroïne, a tout perdu. Sa blanchisserie, son argent, son logement, son mari, sa fille, Nana la prostituée, sa dignité et presque toute sa vie. Virgule de fin des Toupoutous d'Alain Chabat. C'est seulement mignon si vous avez jamais vu un épisode. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance.
Avez-vous déjà vu
Poutou, 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 Poutou.
Une fin de roman déprimante.
Poutou, Poutou, Poutou.
Gervaise dura ainsi pendant des mois. Elle dégringolait plus bas encore, acceptait les dernières avanies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu'elle possédait 4 sous, elle buvait et battait les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu'elle ne mangerait pas quelque chose de dégoûtant, et elle l'avait mangé pour gagner 10 sous. Monsieur Maresco s'était décidé à l'expulser de la chambre du 6e. Mais comme on venait de trouver le père Bru mort dans son trou, sous l'escalier, le propriétaire avait bien voulu lui laisser cette niche. Maintenant, elle habitait la niche du père Bru. C'était là-dedans, sur de la vieille paille, qu'elle claquait du bec, le ventre vide et les os glacés. La terre ne voulait pas d'elle, apparemment. Elle devenait idiote. Elle ne songeait seulement pas à se jeter du 6e sur le pavé de la cour pour en finir. La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte, on parla d'un froid et chaud. Mais la vérité était qu'elle s'en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée. Elle creva d'avachissement, selon le mot des Lorilleux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis 2 jours, et on la découvrit déjà verte dans sa niche. Justement, ce fut le père Bazouk qui vient, avec la caisse des pauvres sous les bras, pour l'emballer. Il était encore joliment saoul ce soir-là, mais bon zig tout de même, et gai comme un pinson. Quand il eut reconnu la pratique à laquelle il avait affaire, il lâcha des réflexions philosophiques en préparant son petit ménage. Et lorsqu'il empoigna Gervaise dans ses grosses mains noires, il fut pris d'une tendresse. Il souleva doucement cette femme qui avait eu un si long béguin pour lui. Puis, en l'allongeant au fond de la bière avec un soin paternel, il bégaya entre 2 hoquets. « Tu sais, écoute-moi bien. C'est moi, Bibi la Gaieté, dit le consolateur des dames. Va, t'es heureuse. Fais dodo, ma belle. »